Bonsoir Fabien Fourel.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Un tir de char et c'est toute l'Europe qui frissonne après la prise il y a quelques heures de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Nous serons à Kiev ce soir où les habitants s'inquiètent des manœuvres russes. Moscou un peu plus seul sur le plan diplomatique. La Cour pénale internationale ouvre une enquête tandis que la Russie tente de contrôler l'opinion avec la menace désormais de la prison. À suivre aussi Éric Zemmour en campagne chez les agriculteurs. Le dernier jour d'audience au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puis pour respirer la prescription culturelle du vendredi, avec un album qui fait la part belle aux sonorités des années 80.
France Inter.
Que voulaient vraiment les Russes en visant ce matin la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporijjia au sud du pays? Réunion de l'ONU en ce moment qui s'inquiète de ses manœuvres en Ukraine. Aucune radioactivité ne s'est échappée, rassurent les experts. Il n'empêche, la population d'Ukraine est inquiète, notamment dans la capitale. Le reportage à Kiev de l'envoyé spécial de France Inter, Omar Waman.
La nuit dernière, j'ai suivi la situation jusqu'à 4h du matin et je suis toujours très inquiet.
Pavlo, 42 ans, metteur en scène à Kiev. Comme de nombreux habitants de la capitale, l'annonce de l'attaque de la centrale de Zaporijjia l'a terrorisé.
Je n'ai pas de pastilles d'iode à la maison. Avec mes amis, on essaie de s'en procurer. Quand je suis arrivé à Kiev, je leur ai dit, que pourrions-nous faire en cas de menace nucléaire? Comment fuir? Comment se protéger? Car ça peut arriver.
La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 est dans toutes les mémoires. Larissa, une habitante du centre-ville, est sortie prendre l'air quelques minutes.
Ça aurait pu être une énorme catastrophe, pire que Tchernobyl. Tout le monde devrait avoir peur.
Il y a la peur de l'accident nucléaire, mais également de voir la Russie contrôler à terme l'ensemble de la production d'électricité de l'Ukraine, estime Vladimir.
Nous pourrions nous retrouver sans électricité, sans lumière ou sans chauffage. C'est une perspective qui m'effraie. Il va se servir de cette centrale nucléaire comme un moyen de pression pour pousser notre gouvernement à capituler.
Jour après jour, l'armée russe resserre l'étau sur son voisin ukrainien et réveille les pires cauchemars. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Et parce que le monde ne veut pas laisser la situation déraper, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique propose aujourd'hui de se rendre en Ukraine pour négocier avec les Russes la sécurité des sites nucléaires. Cela fait 8 jours ce soir que l'invasion russe a débuté. Des bombardements ont repris sur Kiev, ville assiégée. Kharkiv est toujours pilonné. Pas loin de Tchernihiv compte 47 morts en une journée. Et au sud, le front autour de la mer Noire, Mariupol soumise à blocus, selon le maire de la ville. Et puis au large, la marine ukrainienne a sabordé son navire amiral pour éviter que les Russes mettent la main dessus. Le bateau a été envoyé par le fond près de Kherson. Et puis, y a-t-il des viols de femmes ukrainiennes par des soldats russes dans les villes occupées? Oui, selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui demande un tribunal pénal spécial pour juger Vladimir Poutine. Face à ces torrents d'images de villes détruites, de larmes d'Ukrainiens, face à ces témoignages glaçants, la Russie de plus en plus isolée sur la scène internationale. Vote au Conseil des droits de l'homme de l'ONU cet après-midi et écrasante majorité pour demander le retrait des troupes russes et l'envoi d'une mission d'enquête. Seule la Russie et l'Érythrée ont voté contre. Dans la foulée, l'ambassadrice ukrainienne a pris la parole et lancé à Moscou « Le monde entier est contre vous » avant d'appeler en russe ses adversaires à la dissidence.
La délégation ukrainienne salue l'adoption de cette résolution qui a réuni des membres venus de toutes les régions du monde contre l'agression, les violations des droits humains et du droit international. Je remercie tous ceux qui ont voté pour cette juste cause. Et maintenant, j'aimerais m'adresser aux diplomates russes et biélorusses et à tous les citoyens de ces pays qui vivent à Genève. Vous comprenez bien ce qu'il se passe ici, vous le constatez tous. Et vous avez maintenant la possibilité de faire un choix. Est-ce que vous continuez à défendre le mal ou est-ce que vous vous battez pour la dignité humaine? La décision vous appartient.
Yevhenia Filipenko, ambassadrice de l'Ukraine tout à l'heure à l'ONU. Des appels à se lever contre Vladimir Poutine de plus en plus entendus. En Russie, plus de 8000 manifestants ont été arrêtés pour avoir protesté en l'espace de 10 jours seulement. Alors Moscou tente de garder le contrôle. La Douma, le Parlement russe, a adopté aujourd'hui à l'unanimité un amendement. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir.
Correspondant France Inter à Moscou, il prévoit jusqu'à 15 ans de prison en cas de propagation d'informations visant à discréditer, ce sont les mots employés, les forces armées
Oui, cela fait plusieurs années hein, déjà que la loi en Russie restreint fortement toute communication ayant trait à l'armée. On ne peut pas photographier des chars, parler du moral de l'armée par exemple, mais le texte ce matin effectivement a surtout pour effet de durcir les peines encourues avec une question. Le concept d'information mensongère reste flou. Prononcer le mot guerre aujourd'hui, par exemple, quand on parle des opérations en Ukraine, est considéré comme tel par le pouvoir. Cette loi s'applique à tous les citoyens, mais elle vise bien entendu les médias dans un contexte de reprise en main et de censure. Ce matin, l'organe de régulation des médias russes a annoncé avoir bloqué les sites en russe de la BBC et de la radio-télévision allemande, Deutsche Welle. La BBC qui a annoncé il y a quelques instants qu'elle retirait tous ses journalistes de Russie le temps d'évaluer les implications de cette loi. Dans un geste de sauvegarde ce soir, Novaya Gazeta, le quotidien dirigé par le prix Nobel de la paix, Dimitri Mouratov, a annoncé qu'il retirait de son site internet tous les articles consacrés à la guerre en Ukraine parce qu'il était sous la menace de sanctions. Novaya Gazeta, qui est aujourd'hui le dernier grand média libéral et indépendant installé en Russie.
Les précisions en direct de Moscou, signé Sylvain Tronchet pour France Inter. Tandis que l'Union européenne réfléchit ce soir à de nouvelles sanctions, tout est sur la table, selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Et puis pour être complet, sachez que la Bourse de Paris a vécu sa pire semaine depuis mars 2020 et l'annonce du premier confinement en France. Le CAC 40 a perdu 7% en quelques jours. Même chute pour les autres bourses européennes à Francfort et à Londres. Retour en France avec des candidats à la présidentielle qui tentent de relancer la campagne à la campagne. Toute la semaine, ils ont défilé comme de coutume au Salon de l'agriculture, où nous sommes d'ailleurs dans quelques minutes avec Claire Sarvajan. Et aujourd'hui, c'était au tour d'Éric Zemmour, mal en point dans les intentions de vote. Il a tenté de revenir à ses fondamentaux, hélas vite rattrapé par la guerre en Ukraine. Anne Souhaitement.
Très bien accueilli ce matin, Éric Zemmour était venu parler agriculture au contact des éleveurs, producteurs laitiers, lycéens agricoles.
J'imagine que vous voulez reprendre l'exploitation de vos parents.
Ce serait bien.
Parce que moi, vous savez, j'ai prévu de supprimer les droits de mutation, vous voyez, de transmission.
Mais très vite, au hasard des allées, le candidat se fait rattraper par ses vieux démons.
Est-ce que vous pensez que la femme peut être chef d'entreprise?
Bah évidemment.
Parce qu'on entendait que...
Ah mais on entend tellement de bêtises sur moi, vous savez.
Et par la guerre en Ukraine.
La Russie exporte à peu près 35 à 40 millions de tonnes, l'équivalent de notre production.
Éric Zemmour en perte de vitesse dans les sondages, empêché de faire campagne sur ses fondamentaux, la faute à la guerre, ose l'ancien journaliste.
Ça nous distrait du vrai choc de civilisation. Nos problèmes fondamentaux sont au sud, ils ne sont pas à l'est. Nos problèmes fondamentaux, c'est l'immigration, le terrorisme, le djihadisme, les pays africains qui sont au bord du collapse.
Entouré par des dizaines de gardes du corps, policiers, militants, le candidat se fait prendre à partie en début d'après-midi. Botte en touche.
Monsieur Zemmour, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des Zemmour collabos?
J'ai rien entendu.
Et termine sa journée par une condamnation pour utilisation sans autorisation d'image dans son clip d'annonce de candidature.
Et le candidat a immédiatement fait appel de cette condamnation. Lui ne marche plus, il court désormais. Emmanuel Macron s'est à peine déclaré candidat qu'il accélère son calendrier. Meeting en vue à Marseille, des déplacements programmés et un courriel adressé aux adhérents de La République En Marche. J'ai besoin de vous, dit le président sortant, ainsi qu'un clip de campagne qui sera dévoilé dans un instant sur les réseaux sociaux. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Emmanuel Macron qui compte de nouvelles recrues, la présidente Les Républicains du département des Bouches-du-Rhône a décidé de le soutenir. Martine Vassal explique qu'au cœur d'une tempête sans précédent depuis 1945, il est le seul à pouvoir donner un espoir aux Français. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a déjà annoncé dimanche qu'il voterait Emmanuel Macron. Et puis la lutte finale pour Philippe Poutou, va-t-il décrocher ses 500 parrainages in extremis? Le candidat nouveau parti anticapitaliste l'assure. Le Conseil constitutionnel clôture ce soir la campagne des parrainages. France Inter, il est 18h10, dernier jour de l'audition des accusés au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Trois membres de l'entourage des deux terroristes qui avaient assassiné le père Hamel sont jugés. Et aujourd'hui, la cour a entendu Jean-Philippe Steven Jean-Louis, qui avait voulu partir en Syrie avec Abdelmalik Petitjean, futur assaillant. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
En direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Le jeune homme était un propagandiste connu dans la djihadosphère, mais il l'assure, Ariane, il n'a jamais été mis au courant de ce projet d'attentat.
Je reconnais tout, sauf d'avoir su qu'Abdelmalik Petitjean allait faire un attentat, déclare d'entrée l'accusé de 25 ans. Le départ en Syrie, il ne conteste pas. Son activisme, non plus. Ce n'est pas parce qu'on a des chaînes de propagande qu'on fait des attentats. On fait faire, rétorque le président. Il y a aussi cette cagnotte en ligne que le terroriste Abdelmalik Petitjean lui demande d'ouvrir avant les faits, pas pour acheter des armes, assure l'accusé. Renvoyé du foyer où il grandit, Jean-Philippe Steven Jean-Louis explique « La Syrie, c'était ma zone de sortie ». Quand il écrit « On est des terroristes », c'était pour rigoler. Roselyne Hamel, la sœur du prêtre assassiné, se tord les mains. Un peu plus tard, l'accusé demande pardon au parti civil. « J'ai plus grandi en 6 ans de détention que dans toute ma vie ». Dans le box, le jeune homme, décrit comme influençable, persiste pourtant à dire qu'il ne rejette pas toute la charia. C'est plus complexe que ça. « Êtes-vous toujours radicalisé ?» insiste l'avocate générale. « On n'est jamais sûr de rien. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais où ça m'a mené. J'ai pas envie de refaire les mêmes choses. »
Ariane Grissel du service police-justice de France Inter. En bref, le ferry bloqué au large de la Corse a pu accoster à Ajaccio des manifestants nationalistes empêchés depuis ce matin. Le bateau d'entrée à son bord, 150 gendarmes mobiles alors que des manifestations de soutien à Ivan Colonna se poursuivent depuis qu'il a été agressé par un islamiste radical. On y reviendra évidemment tout à l'heure dans notre prochain journal à 19h. Les Jeux paralympiques débutent ce soir à Pékin sans athlètes russes ou biélorusses interdits de concourir. Les L'épreuve se déroule jusqu'à la fin de la semaine prochaine et dans la délégation française, il y a 18 sportifs, 14 athlètes et 4 guides. Enfin, qui a dit que les années 80, c'était ringard? La chanteuse Fishback, découverte il y a 5 ans, revient avec un nouveau disque sous les yeux et il fait encore la part belle aux sonorités des années 80. Mathieu Culeron.
Moins en colère, plus posé mais toujours aussi intense, Fishback revient avec un album qui laisse plus de place aux ballades, tout en conservant son ADN.
Il y a cette envie d'appuyer tous les sentiments qui font notre humanité ou notre féminité, notre virilité, qu'importe. Et avant j'étais une adolescente en colère, aujourd'hui je le suis un peu moins.
Dans ce dernier album, Fishback chante le titre « Démodé », une réponse partielle aux critiques de ses références.
Je sais que c'est plus très à la mode ou c'est démodé, mais qu'importe en fait, parce que ça parle à mon cœur. J'aime vraiment le glam, j'aime même le hard FM, comme on peut dire. J'adore Vangelis, j'adore Supertramp et Alan Parsons Project. J'ai beaucoup écouté ça en bagnole. Bon, le procès des années 80, je m'en fous un peu. Moi, d'ailleurs, en DJ set, j'en passe beaucoup, mais j'adore l'audace et les productions de ces années-là. La façon de chanter aussi, assez lyrique qu'on pouvait avoir, assez audacieuse ou un peu masculine, féminine. Les garçons chantaient très en l'air, les femmes un peu graves. Il y a un truc comme ça que moi, j'aime bien, ouais. Oh, mon petit
feu de paille. Énergique, dans la forme et parfois fragile dans ce qu'il exprime, cet album de Fishback est un disque qui rend hommage avec force à la grandiloquence des années 80.
Les années 80, un savoureux flashback avec Fishback pour respirer dans toute cette actualité, ça va nous faire du bien et pour bien commencer la soirée. Voici la météo.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonsoir Sébastien Lias.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
Peu de changements pour demain ?
Oui, la journée de demain ressemblera un peu à celle d'aujourd'hui avec quand même quelques nuances. On gardera un soleil généreux entre l'Est des Hauts-de-France, le Grand Est, la Seine-et-Marne, la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et le Golfe du Lion. Mais le Mistral va s'essouffler, la Tramontane va mollir. Le soleil s'imposera aussi sur le nord-est de la Corse alors que les nuages seront nombreux et porteurs d'averses sur le sud-ouest de la Corse, la Côte d'Azur et les Alpes du Sud. Entre la Normandie, la Touraine, le Poitou, le Limousin et le Sud-Ouest, on retrouvera la perturbation qui stagne en ce moment. Cette perturbation va quand même perdre en activité. Les pluies seront généralement faibles et intermittentes, hormis sur le Tarn et près des Pyrénées. Entre la Bretagne, le Cotentin et la Vendée, le ciel hésitera entre éclaircies et nuages. Prévoyez aussi quelques averses. Et puis entre le Pas-de-Calais, l'Île-de-France et l'Auvergne, le soleil aura du mal à percer le matin, mais l'après-midi deviendra plus lumineux.
Et des températures en baisse.
Oui, déjà aujourd'hui, les températures ont perdu quelques degrés. Hein. Baisse parfois remarquable, comme à Toulouse où la maximale a atteint seulement 10 degrés cet après-midi, alors qu'il faisait près de 18 degrés hier. Cette baisse va se poursuivre dans les prochains jours. Les gelées seront d'ailleurs de plus en plus nombreuses dès la nuit prochaine. Demain après-midi, prévoyez 9 degrés à Dunkerque, Caen et Saint-Etienne. 10 degrés pour Quimper, Dijon et Strasbourg. 11 degrés à Toulouse, Aurillac et à Lyon. 12 degrés pour Nantes, Paris, La Rochelle et Nice. 14 degrés à Calvi et Marseille. On ira jusqu'à 15 degrés à Perpignan.
Merci Sébastien Léas de Météo France.